Là, je vous invite à prendre vos Bibles pour l'ouvrir dans le livre des psaumes, au psaume numéro 121. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Et nous allons lire deux autres textes qui font écho à certaines parties de ce psaume. Le deuxième texte se trouve dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons donc Jean 10, les versets 27 à 30. Donc ce passage de Jean 10 nous parle du berger, vous le connaissez peut-être. Et donc, nous avons lu dans le psaume 125 qu'il est parlé du départ et de l'arrivée. Eh bien, le berger allait et revenait, sortait et revenait avec son troupeau. C'est un lien direct et nous voyons quelques éléments qui font écho aussi à d'autres parties du psaume, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, Jean 10, verset 27. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et un troisième passage dans l'épître de Jude. Et nous lirons les versets 24 et 25 de l'épître de Jude, qui n'a qu'un chapitre. « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Voilà, je vais faire appel à votre connaissance biblique. Pour le sacrifice d'Élie au Mont Carmel, ça vous rappelle quelque chose ? Okay. Pour le sacrifice d'Élie au Mont Carmel, pour que l'Holocauste soit consumé, il a fallu que le feu descende du ciel. Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Eh bien, pour que nous comprenions la parole de Dieu ce matin et que nous la mettions en pratique, il faut que Dieu envoie son esprit afin que nous puissions saisir et comprendre sa parole. Donc nous continuons à nous appuyer sur l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos cœurs et dans nos vies. Et dimanche passé, nous avons commencé ensemble une série sur les psaumes des montées. Ces psaumes de 120 à 134 qui commencent par l'expression « cantique pour les montées ». Et nous avons vu en fait que ces chants accompagnent les pèlerins en direction de Jérusalem. Jérusalem qui est donc le lieu de la présence de Dieu. Nous sommes en fait tous dans un voyage, tous. Les uns sont dans le train menant à la destruction et d'autres sur le chemin du pèlerin en direction de la Jérusalem céleste. Nous sommes tous en voyage en fait. Et nous avons vu que le psaume 120 parle du lieu de départ, un lieu difficile, loin de Jérusalem. En fait, nous pourrions dire « dans le train à la destination si terrible ». Dans sa détresse, le pèlerin crie à l'Éternel. Vous vous souvenez ? Psaume 120, verset 1. Le pèlerin crie à l'Éternel et il répond. L'Éternel répond. Jamais, jamais Dieu ne rejette celui qui vient à lui. C'est en quelque sorte la manière de sortir du train de ce monde. Et aujourd'hui, avec le psaume 121, nous allons retrouver notre pèlerin sur le chemin qui est face à la difficulté et qui, avec son regard, cherche du secours. Notre premier point sera « Le pèlerin cherche du secours », tout simplement, au verset 1. Nous verrons ensuite « Qui secourt et garde le pèlerin ?» c'est le verset 2. Et le psaume 21 décrit ensuite la manière dont le pèlerin est gardé. Approchons-nous donc de notre pèlerin qui est sorti du train et qui marche sur le sentier. Il est dans la difficulté, il cherche du secours des yeux. Notre premier point, verset 1. Regardez avec moi, gardez toujours votre Bible ouverte au psaume 121, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Le pèlerin lève les yeux vers les montagnes. En fait, cette image de montagne est très riche. Et pour les uns, la montagne est menaçante. Elle est menaçante. Ils ont vécu des expériences traumatisantes. Ils pensent à la fatigue, aux efforts intenses, à la montée, aux difficultés à la descente, au risque de se perdre, de tomber dans un ravin, d'être pris dans une avalanche, de recevoir un rocher sur la tête. Cette façon de voir la montagne pousse le pèlerin à chercher du secours. C'est l'angoisse lorsqu'il voit ce qui est devant lui. En fait, ce sont les difficultés. Cela peut être un travail à accomplir, que l'on voit comme une montagne infranchissable, une responsabilité, un danger physique, un danger psychologique ou spirituel. Des problèmes familiaux, de travail ou dans l'église. Je lève les yeux vers les montagnes en désespérant. D'où me viendra le secours ? Pour d'autres, la vision de la montagne n'est pas menaçante, mais apaisante. C'est la stabilité de ses hauteurs imposantes, la majesté de ses cimes, et les panoramas époustouflants du sommet qui animent leurs sentiments en regardant les montagnes. Ces montagnes sont alors déjà un rappel de la stabilité de l'Éternel, de sa majesté qui nous dit qu'il est roi et qu'il règne, et de l'infinie perfection de ses attributs que l'on voit dans un panorama lorsque nous sommes au sommet de la montagne. Et je donne quelques noms de ces sommets que l'on peut voir depuis là-haut. C'est sa bonté, sa grâce, sa bienveillance, sa miséricorde. Je n'ai pas l'altitude, hein, mais ce n'est pas grave. Sa bienveillance, sa patience, sa puissance, son amour, sa sagesse. En regardant les montagnes de cette manière, en fait, le pèlerin a déjà ses pensées tournées vers le Créateur. Ce Créateur qui a fait les montagnes, qui parle de lui. Il lève les yeux en se demandant comment l'Éternel va agir, là, dans ma situation difficile? Car il sait que le secours vient de l'Éternel qui est au-delà des montagnes. Peut-être encore que le psalmiste fait référence à des événements qui se sont passés sur une montagne dans l'histoire d'Israël. Et il y tourne les regards. Est-ce que vous vous souvenez d'événements qui se sont passés sur une montagne dans l'histoire d'Israël? Alors peut-être que vous vous souvenez que l'ange de l'Éternel est allé à Sodome, a sorti Lot de la ville et l'a dit « Fuis dans la montagne !» La montagne était un lieu de refuge pour Lot. Alors c'est peut-être pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Peut-être vous est-il venu à l'esprit la montagne où Abraham a dû aller sacrifier son fils. Alors vous savez, la montagne, pour Abraham, n'était peut-être pas celle qu'il a gravie avec ses pieds. C'était peut-être plutôt encore plus celle de l'épreuve qu'il traversait. Mais là, sur la montagne, l'Éternel lui a donné son secours. Il a arrêté son serviteur, il lui a donné un bélier qui a pris la place d'Isaac. Oh, peut-être vous avez pensé à d'autres événements, c'est peut-être celui qui vient le plus facilement. C'est le mont Sinaï. Juste après la sortie d'Égypte, l'Éternel se manifeste sur cette montagne de manière puissante. un lieu également qui s'appelle Horeb, ou Sinaï Horeb, c'est le même endroit. Un lieu où nous trouvons aussi Élie. Vous savez, Élie, il est allé au Sinaï. Il était dans une dépression profonde. L'Éternel l'a fortifié, il allait jusqu'au Sinaï. Et là, Dieu lui a parlé. Il est venu à son secours, en fait. C'est Élie qui était en fait sur une autre montagne juste avant. Le mont Carmel, nous en avons parlé tout à l'heure. Où là, Dieu répond d'une manière puissante. Pour nous qui avons le Nouveau Testament, que le psalmiste n'avait pas. Mais nous pouvons penser peut-être encore à d'autres montagnes que nous voyons dans le Nouveau Testament. Pensez-vous à des montagnes dans le Nouveau Testament? Peut-être pensez à la montagne où Dieu a fait le sermon sur la montagne. Voilà. Il a fait un sermon sur la montagne. Les béatitudes à heureux ceux qui... Ou bien vous pensez à la montagne où Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Ou nous pouvons peut-être même penser à ce mont, cette montagne la plus précieuse, le mont Golgotha. Notre Sauveur, notre Seigneur a pris le péché de quiconque croit sur lui pour que nous puissions être sauvés. Le secours ultime de Dieu. Comprenez maintenant que cette image de montagne est riche. Elle est profonde en même temps. Et tout n'a pas été dit, bien entendu. Est-ce que vous avez déjà été face à des situations qui vous paraissaient impossibles ou très difficiles? En fait, comme des montagnes. Eh bien, dans ces situations-là, comme le pèlerin de nos psaumes, n'hésitons pas à nous arrêter, à lever les yeux et nous demander d'où viendra le secours? Il ne s'est pas arrêté à regarder les montagnes. Que ce soit pour se rappeler le passé, que ce soit en voyant la difficulté, que ce soit en se rappelant que Dieu est créateur, il était plus loin, il s'est posé la question, d'où me viendra le secours? Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la même façon de voir les montagnes en face de nous. Parfois, nous les voyons avec angoisse. D'autres fois, nous sommes dans l'expectative de l'œuvre de Dieu. Mais dans les deux cas, il est important de se poser la question. D'où me viendra le secours? Et non seulement de se poser la question, mais d'y répondre, les amis. D'y répondre. Et c'est ce que nous allons faire avec notre deuxième point, qui s'intitule « Le secours vient de l'Éternel ». C'est le verset 2. Lisez avec moi le verset 2. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Est-ce que le secours me vient des moyens financiers que j'ai à disposition? Mais vous savez, la déflation monétaire peut ruiner votre assise financière en quelques secondes. Est-ce que le secours me vient de mes amis, de mes parents ou de mes enfants? Eh bien, la mort peut les emporter sans que je ne puisse rien faire. Est-ce que le secours me vient du gouvernement? Ben, il peut être renversé en quelques instants. Le secours me vient peut-être de mes capacités. Mais je peux les perdre. En fait, j'ai aucun contrôle sur mes capacités. Je les ai reçues et je peux les utiliser tant qu'ils fonctionnent. Non, le texte inspiré de la parole de Dieu est clair. Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Le pèlerin ne croit pas à l'évolution qui fait tout partir du hasard. Il croit en celui qui non seulement a fait les montagnes, vers lesquelles il peut lever les yeux, mais toute la terre avec tout ce qui s'y trouve et même tout l'univers. S'il a la puissance de tout créer à partir de rien, il a la puissance de secourir. S'il n'a pas la puissance de créer, mais qu'il est dépendant de processus hasardeux, comment pourrait-il avoir la puissance de secourir lorsque nous sommes face à des montagnes menaçantes? Laisserait-il faire le hasard? En fait, vous comprenez ici que la doctrine de la création a des conséquences sur notre confiance en l'Éternel, sur notre vision du secours de l'Éternel. Si une personne que vous ne connaissez pas vient vous dépanner, vous êtes en panne avec votre voiture, il y a un problème, une personne inconnue qui vient vous dépanner, vous souhaitez qu'elle sache comment votre voiture fonctionne. Mais vous ne savez pas si vous pouvez vraiment lui faire confiance, hein, cet inconnu. Mais si vous apprenez que celui qui dépanne est l'inventeur et le constructeur de votre voiture, eh bien vous serez certain qu'il sait ce qu'il fait, que chaque chose qu'il va prendre, il saura à quoi elle sert et si elle fonctionne ou non. Parce que c'est lui qui l'a fait et qui l'a mis en place. Donc nous comprendrons que si nous croyons que Dieu a créé le monde, ce que la Bible enseigne, nous aurons une confiance encore plus solide dans le secours de Dieu qui connaît chaque chose qu'il a lui-même créée. D'autre part, savoir que Dieu est créateur de l'univers nous permet de comprendre que rien n'est trop grand pour lui. Lui qui a fait les galaxies, toutes les étoiles. Et il semble que l'étoile la plus grande connue actuellement, dans une autre galaxie, est, tenez-vous bien, alors je l'ai vue, mon petit, hein, très petit, elle est en fait aussi grande que notre système solaire. C'est une étoile. Donc vous pouvez mettre dans cette étoile la Terre et le Soleil avec la distance qu'ils ont actuellement. Voyez un peu là. Dans une étoile. C'est gigantesque. En fait, si on veut essayer d'un petit peu comprendre, c'est difficile quand c'est tellement grand, hein, mais vous prendriez un avion rapide, disons, hein, qui fait le tour de cette étoile, il lui faudrait quelques centaines d'années. C'est assez grand quand même. Si Dieu est capable de créer, de tenir dans sa main toutes les galaxies, il est également capable de venir au secours devant mes montagnes, qui sont bien petites à l'échelle de Dieu. À la nôtre, c'est vrai, elles paraissent grandes, je suis d'accord. Mais à l'échelle de Dieu, il est au-dessus totalement de tout cela. Donc ma question pour vous ce matin, savez-vous d'où vient votre secours? Il ne faut pas seulement se poser la question, il faut savoir d'où il vient. Parce que si on ne sait pas d'où il vient, on ne va pas le chercher là où il est. Est-ce que vous attendez réellement le secours de l'Éternel? Ou est-ce que vous cherchez le secours ailleurs? Comptez-vous vraiment sur le secours de celui qui a fait les cieux et la terre? Ou avez-vous une vue limitée de Dieu? En fait, le psalmiste, il veut nous convaincre. Il veut nous convaincre que l'Éternel est le seul vrai secours et qu'il le fait réellement. Est-ce que vous avez remarqué que dès le verset 3, il change de personne? Dans les premiers versets, il dit « je ». Et dès le verset 3, il dit « tu ». Certains disent que cette utilisation de la deuxième personne du singulier signifie que le pèlerin parle à un autre pèlerin. C'est possible. Mais je crois aussi et surtout qu'il parle à son âme. Comme on le voit ailleurs dans le psaume 42, par exemple, où il se parle à lui-même, il dit « pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi ?» Et gémis-tu sur moi. Vous savez, quelle est la personne qui vous parle le plus au monde? Vous savez quelle est la personne qui vous parle le plus au monde? C'est vous-même. C'est vous-même. On est constamment en train de parler à soi-même. Donc remplissons-nous de la parole de Dieu, afin que ce soit ces paroles qui nous viennent à l'esprit. Et en se parlant à lui-même, le psalmiste dans le psaume 121 nous indique comment le pèlerin est gardé. C'est notre troisième point. Comment est-ce que ce pèlerin est gardé? Relisons les versets 3 à 8. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Alors, en parlant de l'action de l'Éternel, dans les versets qu'on a lus, un verbe revient 6 fois. Vous avez vu ce verbe-là ? 6 fois ! Chaque fois qu'on parle de ce que Dieu fait. Bon, après, ça dépend un peu des traductions. Il y a des traductions qu'on traduit par un nom. Mais c'est un verbe qui est là. 6 fois. Et ce verbe, c'est « garder ». C'est l'Éternel qui te garde. Qui te garde. Qui te garde. Garder veut dire prendre soin, protéger, préserver, veiller sur. On pourrait encore dire escorter, défendre, sauver, accompagner, entretenir, soigner. Mais en fait, le psalmiste n'utilise pas des synonymes ou d'autres mots pour le décrire, il utilise des images, ici dans ce texte. La première image, c'est « L'Éternel ne permet pas que le pied du pèlerin chancelle. » L'Éternel ne permet pas que le pied du pèlerin chancelle. En fait, le pèlerin est sur le chemin pour aller à Jérusalem, dans ce lieu céleste. Et l'Éternel ne permet pas que son pied chancelle. Parce que lorsque le pied chancelle, c'est tout le corps qui menace et qui tombe. Et s'il chancelle vraiment, le pèlerin ne peut plus se relever. On peut dire ses pieds qui chancellent tout le temps, c'est comme des pieds cassés. On ne peut plus marcher. L'Éternel le garde de chanceler. Car même s'il tombe, il le relève, comme le dit le psaume 37 au verset 24. Même si le pèlerin tombe, Dieu le relève. Il ne laisse pas ses pieds chanceler et ne plus pouvoir se relever. À propos des pieds, en réfléchissant à cela, je me suis dit, mais c'est intéressant. Connaissez l'armure du chrétien, Éphésiens 6. Eh bien, il est dit que les chaussures mises aux pieds, justement, c'est quoi? C'est les bonnes dispositions que donne l'Évangile. Que donne l'Évangile de paix, même, qu'il est dit. C'est les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Eh bien, lorsque le pèlerin expérimente et partage l'Évangile de paix, son pied ne chancelle pas. Il est affermi, même lorsqu'il passe par la plus grande épreuve. Parce que cette paix si profonde que rien ni personne ne peut enlever, c'est dans cette paix de l'Évangile qu'il puise ses forces. Et il est toujours sur le chemin de la route spirituelle, même s'il ne peut plus marcher physiquement. C'est merveilleux, ça. Si un jour vous ne pouvez plus marcher, vous continuez sur le chemin vers la Jérusalem céleste. Parce qu'il a dit, je ne permettrai pas, ou il ne permettra pas, que ton pied chancelle. La deuxième image que l'Éternel prend, c'est l'Éternel, enfin le psalmiste, l'Éternel qui garde le pèlerin, ne sommeille ni ne dort. En fait, le pèlerin qui est en chemin a besoin d'être gardé à tout moment. Il n'y a pas un seul instant où il n'a pas besoin d'être gardé. Vous avez déjà vu un enfant qui commence à marcher? Ben, c'est mieux que les parents ne dorment pas à ce moment-là. Mais soient là présents. Sinon, ils tombent. Et surtout, qu'ils ne se rendent même pas compte des dangers. Imaginez un enfant qui ne dormirait jamais, ni la nuit, ni le jour. Les parents n'arriveraient pas à tenir, c'est impossible. Mais Dieu, oui, lui, il le peut. Parce qu'il a toutes les ressources pour tenir, pour nous garder, nuit et jour. Aucun autre Dieu n'a cette capacité, puisqu'il n'en existe pas en fait. On a déjà parlé d'Élie une ou deux fois sur le mont Carmel, mais j'y reviens. Parce que là on voit que Élie est sur ce mont avec 450 prophètes qui en fait sont en train d'implorer leur Dieu Baal pour qu'il envoie le feu sur leur sacrifice. Et après des heures d'invocation, Élie réagit. Et voici ce qui est dit dans 1 Roi 18, 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage peut-être, qu'il dort. Il se réveillera. » Jamais Baal ne s'est réveillé. Jamais. Jamais aucun autre Dieu ne se réveille. Il n'existe pas. C'est des faux dieux. Par contre, lorsqu'Élie prie, il fait une prière courte, une prière précise, Il a à peine le temps de finir sa prière que le feu descend du ciel. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille jamais. Pas un seul instant de notre vie, Dieu a les bras croisés et endormis. Toujours, il a les bras ouverts et accueillants. Même quand le sommeil nous fuit, il est toujours là, les bras ouverts et accueillants. Quel bienfait! Il ne sommeille ni ne dort. Et cette image témoigne en fait du soin constant de Dieu qui garde le pèlerin sans relâche. Il n'y a pas un instant où il n'est pas prêt à consoler, à relever, à fortifier, à guider dans la bonne direction. Des fois, voilà, on se dévie, puis hop, il nous guide dans la bonne direction. N'hésitons donc jamais à nous approcher de lui par la prière. Il veut nous convaincre que c'est vraiment le secours, les amis. On commence à le saisir, ou bien je l'espère, en tout cas ça nous fortifie. Ça nous fait envie de prier ce Dieu qui jamais ne nous rejettera. Troisième image pour expliquer comment le pèlerin est gardé. L'Éternel est une ombre pour le pèlerin. L'Éternel est une ombre pour le pèlerin. On le comprend bien quand le soleil tape fort, comme on dit, en été. En fait, on n'a pas seulement envie d'ombre, on en a réellement besoin. Sinon, nous serions dans une grande difficulté, des coups de soleil, enfin, etc., insolation. Nous avons besoin de l'ombre pour nous protéger. Eh bien, face aux difficultés qui nous blessent, qui nous font souffrir, le pèlerin a besoin de l'ombre du Tout-Puissant. Et ce besoin d'ombre est continuel. C'est pourquoi le psalmiste parle même de l'ombre face à la lune pendant la nuit. C'est un soin constant. Et certains disent que cette notion de l'ombre face à la lune, c'est un peu étonnant ce qu'il dit ici dans ce psaume. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites, mais je vous fais grâce de toutes ces choses. Mais il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante et je veux bien prendre ça aussi avec vous. Certains disent que l'ombre face à la lune de la nuit n'est pas mise pour nous indiquer une protection contre un mal certain, mais contre un mal imaginaire. Parce que l'Éternel, par son ombre, nous protège et nous guérit également de nos difficultés imaginaires, qui sont parfois même extrêmement angoissantes. En lisant la Bible cette semaine, je suis aussi dans l'Évangile, c'est la suite des Évangiles dans les Actes des Apôtres. Et il est dit dans Actes 5, lorsqu'il est parlé de guérison du temps des apôtres, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Son ombre. Or, si l'ombre de Pierre apportait la guérison, combien plus puissante et bienfaisante est l'ombre de l'Éternel? Quatrième image que nous trouvons ici dans ce texte, pour expliquer comment le pèlerin est gardé, c'est que l'Éternel garde le départ et l'arrivée du pèlerin. Cette expression, en fait, est tirée du Deutéronome, au chapitre 28, au verset 6, où l'Éternel parle à son peuple et où il lui dit « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. » C'est une expression identique à l'expression « aller, venir, entrer, sortir », que l'on trouve fréquemment dans la Bible et qui est spécialement liée au berger qui allait, qui venait avec ses brebis ou au chef militaire qui allait et qui venait avec ses troupes. Alors c'est vrai que si cela correspond à la protection des activités quotidiennes ou dans les combats, nous pouvons également la voir dans tous les départs et les arrivées de nos vies. Que ce soit pour les déplacements, les voyages, les projets, mais aussi le départ dans la vie d'adulte, dans la vie de couple. Cela concerne aussi le départ dans la vie sur terre à notre naissance, jusqu'à l'arrivée qui est notre dernier souffle. Et cela concerne enfin le départ qui commence également par une naissance, mais spirituelle cette fois-ci. Le départ de la vie avec Dieu, le départ du pèlerin sur le chemin qui mène à la Jérusalem céleste. Et l'arrivée, ce n'est pas une fin, c'est l'éternité en fait, l'arrivée. ces quatre images que le psalmiste utilise dans ce psaume. Donc l'Éternel ne permet pas que le pied du pèlerin chancelle. L'Éternel qui garde le pèlerin ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est une ombre pour le pèlerin. Et l'Éternel garde le départ et l'arrivée du pèlerin. Nous indique une protection, une veille sans faille de celui qui vient à notre secours. En conclusion, j'aimerais relire le verset 7 avec vous, où il est dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Ce psaume, comme nous avons déjà peut-être pu le constater pour certains, nous parle en fait de ce qu'on appelle la persévérance ou la préservation des saints. C'est un des cinq points des doctrines de la grâce auxquelles nous croyons et que nous enseignons avec joie, respect, reconnaissance envers l'Éternel, de qui vient le salut et sur qui repose le salut. Quand il est dit au verset 7 que l'Éternel garde le pèlerin de tout mal, cela ne signifie pas que le chemin ne sera sans difficulté. Pas ça contredirait d'autres passages, en fait, de la Bible. Donc quand il dit que l'Éternel garde le pèlerin de tout mal, cela signifie qu'il ne retournera jamais dans le train qui mène à la destruction. L'Éternel gardera le pèlerin qui est sorti de ce train du mal par sa grâce. Il le gardera du mal. Alors je ne parle pas des pèlerins qui marchent dans le train en pensant aller à contresens. Ces personnes se disent aussi chrétiens, mais ne sont pas nés de nouveau. Leur cœur est attaché au monde et non à Christ. Je parle des pèlerins qui sont sortis du train et qui marchent sur ce chemin qui va à la Jérusalem céleste. Ce pèlerin, c'est vrai, trébuche encore bien souvent sur ce chemin difficile, encore touché par le péché dans ce monde déchu, mais il ne chancellera pas. Dieu le gardera du mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. Rien, ni personne ne peut l'arracher de la main de Dieu. Rien, ni personne ne peut le séparer de l'amour de Dieu, qui garde l'âme de ses enfants. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ah, ça devrait sortir tout de suite après. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tournons-nous. Oh, que Seigneur nous fasse la grâce. Aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, tournons-nous au bon endroit pour trouver le secours. Nous allons prier. Ô Éternel, ta parole est merveilleuse. Ta parole est stimulante. Ta parole est rassurante. Seigneur, nous lisons souvent ce psaume. Nous l'aimons parce qu'il fait diriger nos regards vers toi. Parce qu'il nous donne une assurance. Cette assurance ne repose aucunement sur nous, mais entièrement sur toi. Et c'est une grâce. Seigneur, merci parce que nous pouvons tourner nos regards vers toi et nous te prions que ce ne soient pas simplement des paroles bienfaisantes que nous entendons ce matin, mais que ce soient des paroles qui nous accompagnent sur le chemin du pèlerin et que, Seigneur, nous puissions tourner nos regards vers toi. Seigneur, tu vois qu'il y a parfois des situations où nous avons l'impression de ne pas avoir ton secours. Parfois, il y a du temps jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas à nos yeux. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner ta patience en nous donnant la confiance en toi. Nous sommes conscients que la vie est difficile, mais nous sommes convaincus et nous savons que tu es un Dieu bon. Eh bien, sois loué et sois béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.